Le titre du message aujourd'hui, l'unique évangile. L'unique évangile. Vous savez, pour ceux qui sont appelés, le petit groupe qui forme le petit troupeau de Dieu en ce moment, au temps de la fin, c'est notre grande bénédiction de connaître la vérité de Dieu. Et en même temps, c'est notre fondement de vérité. Et c'est le fondement de notre cheminement spirituel. Allez à Marc chapitre 1. Ça, c'est un passage que vous connaissez tous très bien, j'imagine, presque par cœur dans certains cas. Marc, chapitre 1, et on va lire déjà le verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. On sait que notre Évangile, elle vient du Christ. Il est le grand messager de Dieu qui est venu nous faire connaître Dieu et son plan. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. Fils de Dieu. Versets 14 et 15, même chapitre. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il était venu non seulement pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes, mais il était venu pour annoncer l'Évangile. Et c'est ce qu'il a fait dès ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il disait en annonçant l'Évangile? Il nous donne un résumé ici. Il disait, « Le temps est accompli. » Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à cette bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Et cette bonne nouvelle, c'est que le Christ est venu pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos péchés, de sorte qu'on peut être pardonné lorsqu'on se repent, et ensuite être baptisé, recevoir son Saint-Esprit, et avoir notre billet, pour ainsi dire, pour la vie éternelle, un dépôt de la vie éternelle en recevant le Saint-Esprit de Dieu. Mais il est venu pour annoncer à l'ensemble de l'humanité le fait que lorsqu'il reviendrait, il établirait sur la terre un gouvernement mondial, le gouvernement de Dieu régi par ses lois, et qu'à ce moment-là, les gens seraient enfin en paix, heureux, paisibles, comme ils n'ont jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Mais vous savez une chose, quand on regarde ce qui s'est passé dans toute l'histoire, depuis Adam et Ève, ça a été caché, le vrai Évangile. D'ailleurs, tout de suite, Adam et Ève ont rejeté Dieu. On le sait parce que les textes nous disent. Adam et Ève ont rejeté Dieu et ses voies. Et Dieu a décidé de les laisser aller en leur disant, « Faites vos expériences. Je vais vous donner 6000 années. Les 6 jours de travail donnés à l'être humain. 6000 années pour faire vos expériences qui vont vous conduire proche de l'anéantissement total sur la terre. Après, je vais intervenir. » Le Christ va revenir et établir son gouvernement, un nouveau monde. Et là, ce sera le premier millénaire du règne du Christ, le grand sabbat qui s'en vient, le sabbat de 1000 ans qu'on célèbre à la fête des tabernacles. Mais ça, ça a été perdu en cours d'histoire. Et ça a été perdu depuis le tout début, ou presque, de la connaissance de cette vérité-là, du vrai Évangile. Il n'a pas été prêché longtemps, le vrai Évangile. Et il n'a pas été prêché sur une grande base. Laissez-moi vous rapporter dans ce sens-là ce qu'un document valable donne et explique concernant ce qui s'est passé dans le temps. C'est l'Encyclopédia Britannica. Ça, c'est un document publié il y a longtemps par des chercheurs qui n'étaient pas religieux, qui n'étaient ni pour ni contre la religion. C'est des gens qui expliquent l'histoire, les faits, et ils donnent simplement ce qui peut être vérifiable. Et regardez ce qu'ils disent à propos de l'Évangile. Comme je vous dis, ce n'est pas des prédicateurs, là. Mais il donne exactement ce qui s'est passé. L'Encyclopédia Britannica dit ceci. « Transporté dans un monde influencé par la pensée grecque, l'enseignement chrétien a été modifié inévitablement. » L'enseignement du Christ et des apôtres originaux a été rapidement modifié dans le monde. Pour ne pas dire, je continue la citation, « transformé ». Et là, ils disent en quoi ça a été transformé. « L'espoir du Messie » ce qu'on annonçait, le retour de Christ sur la terre, l'espoir du Messie, fut oublié. On a graduellement oublié que le Christ allait revenir. La notion du royaume du Christ sur la terre a presque disparu, ne subsistant que dans quelques groupes obscurs, dont le tout petit groupe de la vraie Église de Dieu qui n'a jamais été détruit, selon la promesse de Dieu. Le Christ a dit que son Église ne serait jamais détruite. Elle ne l'a jamais été, sauf qu'à certaines époques, elle a été extrêmement petite, mais elle possédait la vérité. ne subsistant, cette vérité-là, que dans quelques groupes obscurs. Le chemin qui mène au salut a été modifié. C'était plus la même chose qu'au début, là. De même que la signification du salut. Particulièrement après que l'Empire romain eut adopté ce qu'eux appellent le salut chrétien. Un salut qui n'était pas la descente de la Nouvelle Jérusalem sur la terre, comme c'est promis, mais l'ascension des saints dans les cieux. Et c'est ce que la plupart d'entre nous avons appris dans nos églises chrétiennes où on a grandi. On disait qu'à la mort, on allait soit au ciel, soit en enfer, alors que ni un ni l'autre n'est biblique et n'est vrai. C'était des mensonges organisés. Mais voyez-vous que ça a commencé depuis longtemps, et l'Encyclopédia Britannica le reconnaît. On ne parlait plus de la résurrection du corps physique, ce qui va avoir lieu, mais de l'immortalité de l'âme. On disait, vous avez une âme immortelle. Ça, c'est le premier mensonge que Satan avait fait dans le paradis terrestre, en Éden, lorsqu'il a dit à Adam et Ève, faites ce que vous voulez, désobéissez à Dieu, vous avez une âme immortelle, il n'y a pas de problème. Alors, voyez-vous ce que l'Encyclopédie Britannica mentionne concernant l'histoire de la vraie Église, puis comment l'Évangile a été tordu et brisé dès le début. Maintenant, je vous donne une autre citation par rapport à ça. C'est bon qu'on voit. Il y a un historien qui est né en 1757, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Edward Gibbon, et qui fait une observation semblable. Il écrit que la doctrine du millénium, le millénaire du règne de Christ qu'on attend, et qui est illustré par la fête des tabernacles, et qui est illustré chaque semaine par le sabbat qu'on célèbre, le règne terrestre du Christ et de ses saints dans le royaume de Dieu était soigneusement enseigné par les théologiens de l'Église primitive. Et c'est vrai, parce que les premiers apôtres et ceux qui ont suivi, mais qui ont resté dans la vérité, annonçaient que le Christ allait revenir, qu'il allait régner un premier mille ans pour établir la paix, et ainsi de suite. Et il ajoute ceci, et il semble avoir été le sentiment dominant des croyants orthodoxes, mais cet enseignement fondamental a été mis de côté. Et ça, on trouve ça, cette citation-là, dans le livre de M. Gibbon, « Le déclin et la chute de l'Empire romain ». Il déclare ceci encore. « La doctrine du règne du Christ sur la terre commença à être considérée comme une image sérieuse. » Vous allez voir, ça s'est diminué rapidement, là. Il décrit comment ça a été changé comme perception. Elle fut peu à peu considérée comme une idée incertaine et inutile. C'est loin, là. On parle du règne du Christ, que le Christ a décrit plusieurs fois dans la Bible, sur lequel il a insisté tellement. Ça n'a pas pris longtemps, après la mort du Christ et des premiers disciples, des premiers apôtres, que ça a été considéré, le retour de Christ, comme quelque chose d'incertain ou d'inutile. Et enfin, ce fut rejeté comme une invention absurde, hérétique et fanatique. Ça va loin. Là, on accusait ceux qui disaient ça d'être des hérétiques et des fanatiques. Et certains, je sais, sont morts dans l'histoire à cause de la grande Église, à cause des choses qu'ils croyaient dans ce sens-là. L'Église primitive, je continue la citation de Gibbon, faisait un tout de la loi de Moïse et de la doctrine de Christ, donc des deux testaments. Comme M. Appartien nous a dit tellement de fois, il n'y a pas de division entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la Bible de Dieu. Ce sont des époques différentes, avec le même enseignement de base et le même plan de Dieu qui n'a jamais changé, mais pour des époques différentes. Alors, on dit que l'Église primitive rejetait l'immortalité de l'âme comme n'ayant aucune appartenance au livre biblique. Et c'est vrai, ce n'est pas dans la Bible. Et rejetait les coutumes païennes comme les Saturnales célébrées aujourd'hui sous le nom de Noël. Ces doctrines sont maintenant les principes de base du christianisme. Alors, voyez-vous, je vous donne ça pour que vous voyez le cheminement de la destruction de la vraie Évangile originale, l'unique Évangile de Dieu. Et aujourd'hui, toute la confusion à laquelle on assiste dans le monde chrétien, elle vient de là et de l'entretien qui est donné à ça par Satan qui est derrière tout ça. Il y a d'innombrables religions chrétiennes, des grandes et des petites, qui enseignent des choses contraires à la Bible, qui disent aux gens, ne célébrez pas la Pâque, célébrez les Pâques. Complètement différent, c'est pas du tout la même chose. Où on dit aux gens, célébrez le dimanche. Les commandements de Dieu ont été abolis, puis le sabbat a été aboli. Alors que le Christ a dit, je suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Puis il dit, il faut la mettre en pratique. Catholiques, protestants ou autres, groupes charismatiques avec beaucoup d'émotions, ont des enseignements complètement différents de ceux de la Bible, et des enseignements complètement différents les uns des autres, même. Puis, je vois plus loin, parce que même s'ils sont très différents, là, ils sont en train de se réunir en écuménisme pour former une seule grande religion. On dit, mettons de côté nos différences, puis regardons ce qui nous unit, puis travaillons ensemble. Ça n'a aucun bon sens. Et c'est intéressant de voir comment les gens qui ne sont pas appelés pour le moment, Dieu va les appeler plus tard, mais ne comprennent pas que ces gens-là peuvent se tromper. Par exemple, certains vont dire, écoutez, une grande église comme l'Église catholique ou comme certaines églises protestantes ne peuvent pas se tromper. Ils sont tellement nombreux. Est-ce que l'erreur va au nombre de personnes ou la vérité va au nombre de personnes? Absolument pas. Le Christ a été le seul au début à annoncer son message et il annonçait la vérité. Et les autres ne le croyaient pas, même ceux de la religion judaïque de son époque. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens pensent que tous ces gens-là vont sûrement être sauvés parce qu'ils sont sincères. J'entends ça des fois de la part de certaines personnes. Je n'essaie pas d'argumenter, mais je trouve ça en même temps dommage parce que je sais, je vois qu'ils ne comprennent pas pour l'instant. Ils comprendront plus tard. Et ce n'est pas notre rôle d'essayer de leur faire comprendre maintenant. Mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils disent, bon, tout ce monde-là sont sincères. Ils ne peuvent pas se tromper. Ils vont être sauvés. Mais si on gratte un petit peu, être sauvé, ça veut dire quoi pour eux? Ça veut dire aller au ciel. Dès qu'on jase un peu avec eux, ceux qui sont sincères et qui vivent selon ces choses-là ne peuvent pas aller au ciel parce que personne ne va au ciel. Le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Déjà là, ça ne marche pas. Et même si on est sincère, ça ne donne pas la vérité. Parce qu'on peut, comme M. Armstrong a tellement de fois expliqué, on peut être tout à fait sincère, mais tout à fait dans l'erreur. On peut être sincèrement dans l'erreur, sincèrement trompé, sincèrement séduit. La Bible est très claire là-dessus et le Christ parle très clairement. Allez dans Matthieu, chapitre 7, un peu avant. Matthieu, chapitre 7. Il y a un grand nombre de versets qui expliquent ça de façon très claire. Matthieu, chapitre 7, on va lire le verset 21. C'est le Christ qui parle. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, donc ceux qui parlent de Dieu, même ceux qui lisent la Bible, mais qui ne mettent pas en pratique ce qui est écrit, ce qu'on dit de faire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, voyez-vous, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Voyez-vous la condition? C'est de faire la volonté de Dieu. Ça ne peut pas être d'autre chose. Il dit, il y a des gens qui parlent de moi beaucoup, qui croient en moi même, sincèrement, mais ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, dans ces conditions-là. Il faudra qu'ils changent. Dieu va les appeler en leur temps. 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. La Bible est très claire sur le chemin que nous avons à suivre pour entrer dans le royaume de Dieu. 2 Timothée 2, et regardez le verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Sur toute la terre, Dieu sait quels sont les quelques-uns actuellement qui lui appartiennent vraiment. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, comme on a vu tantôt, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume, seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire qu'il cesse de transgresser les lois de Dieu. S'il veut appartenir à Dieu, s'il veut plaire à Dieu, c'est notre cheminement depuis que Dieu nous a appelés et notre développement du caractère de Dieu n'est pas encore terminé. On continue de travailler là-dessus. 1 Jean, chapitre 2. Allez à 1 Jean, chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 2. Et nous allons lire encore un passage qui va nous aider dans le même sens ici. 1 Jean, chapitre 2. Et on va lire les versets 3 et 4. Encore très clair. Qu'est-ce qu'on a à faire quand on voit quelles sont les lois de Dieu, qu'elles n'ont jamais été changées? Si nous gardons ses commandements, et ses commandements n'ont jamais changé, nous savons par cela que nous l'avons connu. Ça correspond à ce qu'il a dit tantôt. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume parce qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Pour connaître Dieu, il faut mettre ses lois en pratique. Celui qui dit, verset 4, « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Il ne va pas avec le dos de la cuillère. C'est un ou l'autre. Pas parce qu'on doit être parfait maintenant, mais il faut être en train de changer pour les mettre en pratique, ces lois. Celui qui dit qu'il a connu et qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. La vérité n'est pas en lui. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui disait, avec raison, Dieu m'aime. Dieu, je sais que Dieu m'aime parce qu'il y a tellement de bénédictions qui arrivent dans ma vie et tout ça. C'est pas quelqu'un qui vient à l'église, mais quelqu'un qui pense à Dieu, qui parle de Dieu beaucoup, beaucoup, abondamment. Il dit, je sais que Dieu m'aime, je connais Dieu, mais la question que j'aurais pu lui poser à ce moment-là, c'est, est-ce que vous aimez Dieu? C'est vrai que Dieu vous aime. Vous avez la vie, vous avez la santé, vous avez différentes bénédictions. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? La Bible dit quoi? Aimer Dieu consiste à quoi? Consiste à garder ses commandements. Alors, tant que vous ne gardez pas ses commandements, que vous ne vous appliquez pas à garder ses commandements, comme il nous a montré de faire, nous n'aimons pas Dieu. C'est simple. La définition est toute simple, là. Dieu m'aime, oui, mais moi, je dois l'aimer et lui prouver en travaillant à vivre selon ses lois. On peut sincèrement parler de Jésus, mais ne pas mettre en pratique ce qu'il nous faut faire, même partiellement. Et vous savez une chose? Si on fait ça, c'est qu'on le renie. C'est qu'on renie Dieu, tout simplement. Même si on y croit sincèrement, même si on en parle abondamment, même si on dit qu'on le remercie et tout ça, si on ne l'aime pas en mettant en pratique ses commandements, on le renie. C'est gros. Vous irez voir dans Tite 1, verset 16. Tite 1, verset 16, il est écrit, « Ils font profession de connaître Dieu. » Autrement dit, ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient. Comment? Par leurs œuvres. Quelles œuvres? Les œuvres qui sont contraires aux lois de Dieu. Parce qu'ils ne pratiquent pas les lois de Dieu. Ils ne travaillent pas à les mettre en pratique, à observer le sabbat, ses fêtes, à devenir plus patient, à travailler sur le fait d'apprendre à donner, à aider, étant abominable, rebelle, et ainsi de suite. Allez dans Luc, chapitre 6. C'est la parabole, justement, des deux maisons. Et ça, ça doit nous enseigner beaucoup pour être proche de Dieu et s'assurer de rester proche de lui jusqu'à la fin, alors que les temps deviennent de plus en plus turbulents autour et qu'on a besoin d'être fondé sur le roc, fondé sur le Christ, sur son évangile, sur ses directives, et le supplier de nous aider dans le cheminement qu'on a à faire. Luc 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Ça ressemble à ce qu'on a vu tantôt dans Matthieu 7. Hein? « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Si on ne fait pas ce qu'il nous dit, on n'a même pas besoin de l'appeler Seigneur, Seigneur, parce qu'on ne le connaît pas et on n'est même pas en rapport avec lui. Même si extérieurement, ça peut sembler joli, ça peut sembler gentil, ça peut sembler chrétien, ça ne l'est pas, ce n'est pas vraiment chrétien et ce n'est pas vraiment biblique. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » C'est un plan qu'on se fait dans nos vies quand on voit la loi de Dieu. Il est mis en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Il y a une grande inondation qui s'en vient dans les grands bouleversements qui approchent. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien basée, bien fondée, bien bâtie, fondée sur le roc, sur un appui solide. C'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit vivre. Après ça, il donne l'inverse, il dit, « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique, » ça comprend tous ceux qui lisent la Bible, en parlent à la journée, disent qu'ils sont chrétiens, disent qu'ils aiment Dieu, disent qu'ils remercient Dieu, mais qui n'obéissent pas à ses lois. « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Ses fondements sans force, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. » Mais vous, c'est un ou l'autre. Et une fois que Dieu nous appelle, on a à prendre la décision, est-ce que je prends l'engagement de suivre Dieu jusqu'au bout, de lui rester fidèle pour ne pas perdre ma vie éternelle? Parce qu'une fois qu'on a signé le contrat avec le sang du Christ dans les eaux du baptême et qu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas retourner en arrière. Sinon, on perd tout. et il nous donne tout ce qu'il faut pour y arriver. Absolument. Matthieu 7. Retournons à Matthieu 7. Matthieu 7 et le verset 21 et 22. Ce qu'on a vu tantôt, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », ça rejoint ce qu'on vient de voir, « n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Verset 22. « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? » Et il y en a beaucoup qui prophétisent au nom du Christ. D'ailleurs, le Christ, est-ce qu'il n'a pas dit dans Matthieu 24 que précisément, pas longtemps avant son retour, il y aurait une foule de faux prophètes qui viendraient en son nom annoncer des choses et prophétiser. Et même prophétiser certaines choses de vraies, tout en annonçant des choses fausses en même temps. « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons même par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » D'ailleurs, il y a un grand chef religieux qui va faire des grands miracles au temps de la fin, même faire descendre du feu du ciel, vous le savez. Ce sont de grands miracles, pas par la force de Dieu, mais par la force de l'adversaire. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. » C'est pas peu dire, là. « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Allez-vous-en. Vous qui commettez l'iniquité, qui n'avez pas travaillé à vous appliquer à changer. » L'iniquité, c'est le péché, c'est l'injustice sous toutes ses formes. Certaines personnes disant que Jésus est leur Seigneur ne sont réellement pas ses serviteurs. Il faut apprendre à distinguer ces choses-là, avoir le discernement qu'il faut dans ce sens-là. Elles ont été séduites, bien sûr. Elles ont été induites en erreur. Elles sont encore dans l'erreur. Dieu va leur donner leur chance plus tard. On pense à eux. On trouve ça dommage, c'est vrai. Et même, il y a des gens qu'on aime beaucoup, qu'on connaît dans notre entourage, dans nos parents, dans nos amis, qui sont encore dans ce cas-là. On n'a pas à essayer de les changer ou de leur vendre quoi que ce soit. On demande à Dieu de les appeler au bon moment. Et c'est lui qui sait quand c'est le meilleur moment d'appeler une personne ou si ce n'est pas le temps. Parce que Dieu sait que pour certaines personnes, ce n'est pas le temps qu'ils risqueraient de perdre leur occasion de salut s'il les appelait maintenant. Lui sait, il mesure les cœurs exactement. Mais certaines personnes disant que Jésus est le Seigneur ne sont pas vraiment ses serviteurs. Elles ont été séduites et elles continuent de pratiquer le péché. Elles se donnent toutes sortes d'excuses. Et dans plusieurs cas, leur religion ou leurs enseignants spirituels leur ont parlé beaucoup, beaucoup de la personne du Christ. Je me rappelle, on nous parlait beaucoup du petit Jésus. Hein. D'ailleurs, en passant, j'étais pour dire pour votre information, mais non, parce que vous le savez mieux que ça. Mais pour l'information de ceux qui nous enseignaient le petit Jésus, on peut leur dire qu'il n'est pas resté petit. Là. Il est un peu plus grand que ça. Il est même très, très grand. Et il est glorieux, il est auprès de son Père. Alors, ceux qui prient encore le petit Jésus et qui se mettent à genoux devant un petit bébé, ça fait partie de tout le système d'idolâtrie que Satan a bien façonné pour que les gens soient esclaves de ça et continuent à croire aux mensonges. Les gens ont... Les grandes religions du monde, les religions chrétiennes ont prêché beaucoup la personne du Christ, ses miracles, ses qualités et tout ça. Mais vous remarquez, ils ne parlent pas beaucoup de son message. Ils ne disent pas que le Christ a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. » Et il a dit « Je vais revenir. » Et il dit même à quel endroit qu'il va revenir sur la terre, à quel moment et dans quelles circonstances. Alors, ils n'ont pas annoncé son message. Donc, ils ont gardé les gens dans l'ignorance. C'est dommage. Ils auront à répondre de ça. Certains d'entre eux savaient mieux. Certains d'entre eux savaient mieux. Il y a un commandement qu'il faut obéir aux lois de Dieu. Mais on vit dans un monde qui n'est pas le monde de Dieu. J'en ai parlé dernièrement dans un sermon, puis je me demande si on réalise vraiment à quel point c'est le cas, qu'on n'est pas dans le monde de Dieu. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce monde-là nous apporte des choses valables, vraiment. Il y a des choses qui peuvent être bonnes. Mais le monde ne nous apportera pas des choses valables quant à la vérité. La vérité biblique, elle est dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et ce sont ses serviteurs qui nous l'enseignent, parce que l'ensemble du monde, comme c'est marqué dans Apocalypse 12, verset 9, ont été séduits. Le grand dragon, le serpent ancien, qui a séduit toute la terre. C'est pas peu de choses, là. Quand vous dites que l'adversaire a séduit toute la terre, Dieu a permis qu'il en soit ainsi, parce qu'il a établi un plan qui fonctionne par étapes. Pour tout de suite, il appelle un tout petit troupeau. Une fois que le Christ sera revenu, là, il va appeler tout le monde. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce que l'ensemble de l'humanité reste avec un voile sur l'esprit. Elle ne peut pas comprendre. Même ceux qui voudraient comprendre Si Dieu ne les appelle pas, ils ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça que vous qui comprenez, si vous essayez de convaincre quelqu'un que vous aimez, si la personne n'est pas appelée, elle va simplement vous trouver bizarre, elle va même vous rejeter parce que vous lui annoncez des choses qu'elle n'est pas capable de comprendre. Elle sera capable de comprendre quand Dieu va lui donner de comprendre comme Dieu vous a donné de comprendre. Et c'est pour ça que toutes ces religions dans le monde, les religions qui adorent Allah, qui adorent Bouddha, Hare Krishna, un Dieu trinitaire, mettez-en toute la liste, là. Satan a fait une panoplie de fausses religions où il y en a pour tout le monde, où tout le monde peut trouver son compte et puis essayer de se faire un cheminement spirituel. Regardez 1 Jean chapitre 5, versets 19 et 20. 1 Jean chapitre 5. Versets 19 et 20. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 9. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous, nous savons que nous sommes de Dieu, pas par notre force, pas par nos qualités, pas par nos valeurs, parce que Dieu a appelé les faibles du monde et a décidé de nous faire miséricorde maintenant et de nous aider à faire le chemin jusqu'au bout si nous faisons notre part. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. On est convaincu que le Christ est venu dans la chair humaine et qu'il a donné sa vie. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour comprendre le véritable. Voyez-vous, ça nous est donné. On ne peut pas s'enorgueillir de ça. On peut seulement dire merci et demander pour les autres en leur temps. Mais on peut seulement dire merci. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est formidable. C'est formidable. Paul explique un peu le même phénomène que je suis en train de vous décrire. Si on va dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens chapitre 4, et on va lire les versets 3 et 4. Alors, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, ça correspond à ce que je vous dis tantôt. Pour l'ensemble du monde actuellement, l'Évangile est voilé. Ils ne peuvent pas le comprendre. Même si on leur expliquait pendant des heures, si Dieu n'ouvre pas la petite fenêtre de leur esprit pour qu'ils comprennent, l'Évangile est encore voilé pour eux. Ils ne peuvent pas le comprendre. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, on sait que c'est Satan qui est le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence par toutes les fausses conceptions, les faux enseignements, les fausses églises, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous, c'est encore voilé, c'est encore fermé pour l'ensemble de l'humanité. Ça nous montre quelque chose. Ça nous montre à quel point le fait de comprendre sa parole, le fait de comprendre son sabbat, ses fêtes, de vouloir les observer et de commencer à travailler à changer, de continuer à changer, c'est un cadeau extraordinaire que Dieu nous donne. Et il nous promet de nous aider à aller plus loin si on maintient le cap dans ce sens-là. Mais avec tout ce que je vous ai montré, en parlant du fait que l'humanité a été séduite et amenée dans une direction tout à fait opposée aux vrais évangiles, à la vérité, ça nous montre à quel point ce n'est pas surprenant que l'ensemble des êtres humains ne connaissent pas le vrai Dieu, même ceux qui en parlent, ne connaissent pas ses fêtes. Donc, par le fait même, ne connaissent pas son plan. Parce que quand on observe ses fêtes, on commence à comprendre son plan. Et ne connaissent pas non plus le vrai but de la vie, qui n'est pas d'aller au ciel ou en enfer, ou d'être transformé en un animal autre, d'une fois à l'autre, lorsqu'on est passé par différents changements selon certaines religions. 2 Corinthiens 4, on va commencer à lire un petit peu plus loin, au verset 6. Verset 6. Parce que, voyez-vous, il y a un petit troupeau, comme je l'ai mentionné tantôt. Il y a un petit troupeau actuellement, sur la face de la terre, à qui il est donné de comprendre et qui a le devoir de vivre selon les lois divines pour se préparer à régner avec le Christ et pour être capable d'arriver au royaume. 2 Corinthiens 4, versets 6 et 7. Car Dieu qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres, et on est aujourd'hui dans un monde de noirceur, dans un monde de ténèbres, dans un monde de misère. Et notre façon de vivre doit être totalement différente. Et c'est pour ça que c'est une lumière qui éclaire dans un monde misérable. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, par son Saint-Esprit, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et regardez ce qu'il dit après. Nous portons ce trésor, c'est ça que je vous dis, c'est un trésor, un don inestimable. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Vous et moi, nos corps physiques, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. À Dieu et non pas à nous. C'est un cadeau extraordinaire, unique. Le grand berger dirige son petit troupeau. Dieu l'a établi comme chef suprême de l'Église. Parfois, j'aime ça parler à Dieu du Christ en lui disant « Merci, Père, d'avoir établi notre grand frère, mon sauveur, comme chef suprême de l'Église. C'est lui qui nous dirige, qui prend soin de nous, qui a soin de chacun et de chacune, de ses petits frères, de ses petites sœurs actuellement à travers le monde. » Regardez, par exemple, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, on voit ici la nomenclature de l'Église, comment Dieu a voulu que les choses soient. Parce que Dieu a un gouvernement dans l'Église. Et c'est un gouvernement théocratique, du haut en bas. Ce n'est pas par élection. Il n'y a aucun ministre qui est élu, ni un évangéliste qui est élu. C'est toujours désigné par les autres qui sont en place. Et c'est comme ça depuis le début de l'Église. Éphésiens chapitre 4, et voyons ce que dit le verset 4 et 5. Il y a un seul corps, un seul esprit. Et moi, je vous parle aujourd'hui de l'Évangile unique. Il y a un seul vrai Évangile. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance. Et la seule espérance, c'est la vie éternelle. Par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi. On ne peut pas croire à une autre sorte de Dieu ou à un Dieu qui soit différent du vrai Christ. Un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, et là après on voit au verset 11 et 12, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme enseignants, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Alors, on voit ici la structure que Dieu a donnée pour son Église. Ça a été comme ça depuis le début, et ça sera comme ça toujours. Et pourquoi les choses sont comme ça? Verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, de ceux que Dieu appelle à vivre de façon différente, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. » Autrement dit, pour que l'Église se développe, pour que les gens dans l'Église développent le caractère de Dieu, il faut un ministère qui enseigne ces choses-là, qui encourage les gens à changer et à ne pas se décourager lorsqu'ils manquent leur coup, à leur dire « Allez vers Dieu, demandez pardon, demandez-lui son aide et il va vous aider. » Verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? « En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Alors ici, vous avez la description de ce corps de Christ qui est en train de se préparer pour servir dans le monde à venir. Allez dans Matthieu 28 maintenant. Matthieu 28, dernier chapitre du livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 28, à la toute fin. Ça, c'est après que le Christ a été ressuscité. Il est revenu cette fois-là rencontrer ses disciples avant de monter au ciel. Et regardez ce qu'il leur a donné comme mission. Commençons à lire au verset 16. « Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ce n'est pas rien, là. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est très clair. Enseignez tout ce que le Christ a prescrit, sans rien ajouter, sans rien enlever. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » parce qu'il y aura une fin de la société dans laquelle nous vivons. Et au temps de la fin, comme c'est marqué dans Matthieu 14, la petite Église de Dieu doit faire une œuvre encore plus colossale sur le plan mondial, même si nous sommes très peu nombreux. Et ça va se passer, je dirais, comme ça s'est passé pour la petite armée de Gédéon, qui a accompli de grandes choses alors qu'ils étaient très peu nombreux à ce moment-là. Le Christ n'a jamais changé. D'ailleurs, il dit à différents endroits qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a jamais non plus changé sa loi, changé la loi de son Père. Et il faut obéir même aux plus petits commandements. On le voit dans Matthieu 5. Matthieu 5, et commençons au verset 17, allez au verset 19. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Pourtant, ce que disent de nombreuses religions et de nombreux prédicateurs, que la loi a été abolie, on ne doit pas tenir compte de ça, ou que l'Ancien Testament, ça c'est pour cette époque-là, que ce n'est pas pour notre époque. » Il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » Parfois, certains disaient, il y en a qui seront appelés, qui seront dans le royaume et qui seront appelés le plus petit. Mais il y a des chances que ceux dont il est question ici ne soient pas dans le royaume, mais qu'on puisse en parler au passé, en disant ces gens-là qui savaient et qui ont enseigné quand même l'erreur sont les plus petits. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu leur a donné. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voyez-vous comment c'est clair? Le vrai christianisme, ce n'est pas une religion à la carte, où on choisit tel point et tel autre point, ça ne m'intéresse pas, ou je ne suis pas capable de le faire, je n'entreprends pas de changer. Non, ce n'est pas une religion à la carte où on choisit seulement ce qu'on aime ou ce qui nous plaît. Qu'est-ce que le Christ a dit au jeune homme riche qui lui a demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour entrer dans la vie éternelle? Vous connaissez ce passage-là, dans Matthieu 19, verset 17. Qu'est-ce que le Christ a répondu? Très clairement, il a dit, « Si tu veux entrer dans la vie, sous-entendu la vie éternelle, c'était pas la vie physique, il l'avait la vie physique. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, recevoir l'immortalité, observe les commandements. » C'est le point de départ de notre cheminement spirituel vers l'immortalité. Puis après ça, le Christ a cité quelques-uns des commandements. Et on a la directive, bien sûr, de ne rien ajouter et de ne rien enlever. C'est même marqué dans Matthieu 4, verset 4, un passage que vous pourriez sans doute dire par cœur, j'espère. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Allez au début de la Bible dans Exode, chapitre 31, s'il vous plaît. Exode, chapitre 31. Exode, chapitre 31. On prend simplement le jour que nous observons aujourd'hui, le magnifique sabbat que Dieu nous donne chaque semaine. Puis on en a tellement besoin d'arrêter complètement nos activités, de rentrer chez nous, de garder les contacts, de ne pas garder contact avec le monde extérieur dans ce sens-là, et d'observer le Saint Sabbat, de lire, de prier, de se reposer, et ainsi de suite, et de venir à la Sainte Convocation lorsque c'est physiquement possible de le faire. Le Christ et ses disciples observaient le sabbat. Nous ont laissé un exemple extraordinaire là-dessus. Et le sabbat n'a jamais changé. Et le sabbat sera encore observé dans le monde de demain, une fois que le Christ sera revenu. Il y a plusieurs versets qui le montrent. Les vrais disciples du Christ aujourd'hui observent le sabbat, tout simplement. Ils suivent dans les traces du Christ. Ce sont des chrétiens. Ils imitent le Christ. Chrétien veut dire ceux qui suivent le Christ, ceux qui imitent vraiment le Christ. Pas seulement dire qu'ils le connaissent. Ils observent les sabbats de chaque semaine et ils observent les sabbats annuels qui sont ces fêtes. Et comme par exemple le septième jour de la semaine, comme la fête des tabernacles, ça représente le septième millénaire qui sera accordé aux êtres humains, mais un millénaire où le Christ sera là, où Satan sera éliminé et où la vérité sera enseignée à l'ensemble de l'humanité. Jésus a observé la fête des tabernacles, vous le savez, vous pouvez aller voir dans Jean chapitre 7, on voit que Jésus a observé la fête des tabernacles, comme la Pâque, comme toutes les autres fêtes d'ailleurs. C'est les fêtes que lui-même avait données. C'est lui qui a donné la loi, qui a tonné de sa voix puissante les commandements de Dieu sur le mont Sinaï et qui a donné ensuite ses fêtes à Israël. Exode 31, lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. 7e jour, c'est pas à moi. Je disais ça à Dieu ce matin dans ma prière. Je le remerciais de m'aider à réaliser, puis je demandais de m'aider à réaliser davantage que le 7e jour, c'est pas à moi. Parce que ce matin, à un moment donné, en me levant, il m'est venu des pensées de quelque chose que j'avais à faire sur le terrain. Et j'ai demandé pardon à Dieu. Je n'ai pas d'affaire à ça. C'est pas quelque chose qui va avec le sabbat. J'ai demandé pardon. J'ai dit, aide-moi à vraiment me détacher de toutes les autres choses de plus en plus pour être à l'intérieur du sabbat totalement. Le 7e jour est le sabbat de Dieu. J'ai dit à Dieu, c'est ton jour, c'est pas le mien. J'en ai eu 6 jours pour faire ce que j'avais à faire. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aide-moi à être proche de toi. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. C'est pas à mes plans, à mes activités, à mes problèmes. Non, mes problèmes, il faut que je m'habitue à les mettre sur la tablette le vendredi soir avant le coucher du soleil. Les mettre dans les mains de Dieu et dire, Père, occupe-toi de ces choses-là. Aide-moi à ne pas y penser durant le sabbat, parce que c'est ton jour, justement, je dois être proche de toi, apprendre à te remercier, apprendre à fouiller dans ta parole, à me nourrir de ta parole. Le jour du repos, consacré à qui? À l'Éternel, pas à moi. Bien sûr, je peux aller prendre une belle marche en nature, je peux écouter de la belle musique, je peux me reposer davantage, je peux faire ces choses-là, goûter des bonnes choses qu'on a préparées d'avance. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dieu n'entendait pas rire avec ça. Il disait, ma nation, vous allez observer le sabbat, sinon il y a des conséquences. Et en bout de ligne, ceux qui ne voudront pas observer le sabbat seront punis de la mort éternelle. Ça va dans le même sens. Verset 16. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Perpétuelle, c'est pour tout le temps, pour toujours, comme une alliance perpétuelle. Et regardez comment c'est bien dit après et comment c'est encourageant que ça nous met dans une relation étroite avec notre Dieu et que le fait d'observer de mieux en mieux son sabbat, de lui consacrer totalement ce 7e jour en l'adorant, comment ça nous met dans un rapport spécial avec Dieu et comment ça lui plaît. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël, et vous personnellement, et moi personnellement, un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre et s'est reposé. Donc, le fait que vous, avant le coucher du soleil, le vendredi soir, vous terminez toutes vos activités, et là, vous entrez paisiblement dans le jour de repos, ça devient tout de suite un signe où Dieu voit que vous lui appartenez, que vous voulez faire sa volonté, et lui en est heureux, et il ne demande pas mieux que de vous bénir par la suite. Parce que Dieu bénit ceux qui s'appliquent à lui obéir. On laisse de côté tout ce qui n'est pas du sabbat. Ce n'est pas le temps d'aller visiter des gens à l'extérieur, d'aller visiter de la parenté, à moins d'avoir des besoins particuliers, si quelqu'un est à l'hôpital ou quelque chose du genre, mais ce n'est pas le temps d'aller faire du social, autrement dit, avec des gens à l'extérieur. C'est la journée de Dieu. Ce n'est pas ma journée. Et ce n'est pas la journée de mes amis ou de mes parents. C'est un signe qui doit durer à perpétuité. Et le Christ va revenir et va enseigner, et nous allons faire de même si nous sommes là, que le sabbat doit être observé sur toute la face de la terre. Pour être de vrais serviteurs, des vrais disciples du Christ, il faut apprendre à marcher dans ses voies et à persévérer. Et c'est là que c'est exigeant, parce que persévérer, quand tout va bien, c'est facile. Quand il y a des contradictions, c'est difficile. Ou quand l'usure du temps joue contre nous, c'est difficile aussi. Quand ça fait longtemps qu'on est dans l'Église, qu'on étudie la même Bible et tout ça, parfois on peut être porté à ralentir, à dire « Ah, oh, j'ai déjà lu ça » ou « j'ai pas autant besoin de faire une étude chaque jour ». Et quand on se dit ça, on s'affaiblit. On s'affaiblit parce qu'on se nourrit moins. Si vous vous nourrissez moins physiquement d'une journée à l'autre, qu'est-ce qui arrive physiquement? Automatiquement, vous faiblissez. Mais c'est exactement la même chose spirituellement. Et il y a des journées qu'on a moins le goût de lire. Il faut quasiment se fouetter, pour ainsi dire, se faire une discipline de dire, bon, bien, de telle heure à telle heure, moi, je fais mon étude biblique. et j'entre là-dedans, je demande à Dieu de m'aider. Vous allez rester surpris. Les journées où vous allez vivre ce genre d'expérience-là, comment Dieu va vous répondre? Si vous dites à Dieu, montre-moi des choses que j'ai besoin de savoir. Aide-moi d'aller au bon endroit ou de prendre la bonne brochure ou d'écouter le bon sermon et donne-moi de voir ce que j'ai à voir aujourd'hui. On a besoin de ça. Le vrai christianisme, là, c'est une façon de vivre et on en puise les notions dans la parole de Dieu, dans le vrai évangile, l'unique évangile. Et c'est une façon de vivre totale. C'est pas partiel. C'est pas à demi. Même façon qu'on prend pas à la carte ce qu'on veut et qu'on laisse de côté ce qu'on veut pas, de la même façon, c'est une façon de vivre totalement. Et notre livre d'instruction, c'est la Bible. Notre base, c'est le seul évangile qui a été altéré dès le début, comme je vous ai montré, par les documents historiques que je vous ai montrés. Mais je vais vous donner maintenant un document biblique qui dit que ça a été altéré depuis le début. Allez dans Galates 1. Galates 1. Déjà, l'apôtre Paul voyait que l'Évangile était altéré, déjà à son époque. Ça, ce que je vais vous dire maintenant, c'est en l'an 53 de notre ère. Ça veut dire que c'est à peu près 22 ans après la mort et la résurrection du Christ. Dans Galates 1, versets 6 et 7, il parle aux membres de l'Église de cette région-là ici, et il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Voyez-vous comment ça a commencé de bonne heure? Ça n'a pas pris de temps. Même au temps des apôtres, même au temps de Paul qui enseignait dans ces églises-là, il y avait déjà des gens qui commençaient à s'éloigner du vrai évangile. Comprenez-vous que rendu 2000 ans plus tard, que le vrai évangile n'est pas plus annoncé qu'à l'époque? Au contraire. Alors, c'est pour ça que la petite Église de Dieu doit rester fondée sur la parole. On doit se nourrir chaque jour, prier chaque jour, s'aider les uns les autres, s'encourager quand on vient au sabbat, s'appeler dans la semaine, envoyer un petit mot à ceux qui ont besoin, et ainsi de suite, pour garder l'Église active, proche de Dieu et proche les uns des autres. Non pas qu'il y ait un autre évangile, verset 7, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'Évangile de Christ. Voyez-vous, c'était déjà commencé à l'époque des apôtres originaux. Incroyable! Alors, c'est pas surprenant que l'Encyclopédia Britannica et qu'Edward Gibbon, ces gens qui voient l'histoire et qui en rendent compte, nous aient donné les choses que je vous ai mentionnées tantôt. Allons dans Ésaïe 32. On va parler du monde à venir. Ça, c'est toujours spécial, c'est toujours encourageant. Et c'est ce qui vient de toute façon. Ésaïe, chapitre 32. Ça parle ici du règne futur de paix et de justice quand le Christ sera revenu. On va lire les versets 1 à 5. Alors le roi règnera selon la justice de Dieu. Quel est ce roi? Le Christ. Votre grand frère, mon grand frère qui va être là. Alors le roi règnera selon la justice. Enfin! Il y a tellement d'injustices dans le monde aujourd'hui. C'est épouvantable ce qu'on entend, ce qu'on voit dans les bulletins de nouvelles, des injustices irréparables et tellement misérables. Alors le roi règnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. C'est qui ces princes-là? Ce sont les sacrificateurs dont il est question dans Apocalypse 5, versets 9 et 10. Les fidèles serviteurs de Dieu qui deviendront le groupe d'enseignants sous le Christ. On les appelle ici les princes. Ils seront sous le roi. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des rois. Parce que ceux d'entre nous qui seront fidèles, comme d'autres l'ont été dans le passé, Moïse, M. Armstrong, M. Appartien et les autres qui seront ramenés à la vie, ils seront aussi des rois ou des princes, sous le roi des rois. Alors, le roi règnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Et là, ça décrit la beauté du monde qui vient. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un terrain très asséché où il y a une belle pluie qui arrive et ça commence à, tranquillement, les mottes commencent à se former. Au début, là, il y a la terre est craquelée et après, ça commence à changer. Et moi, sur la ferme, on a vu ça à l'occasion, lorsque ça commençait à changer avec l'arrivée de la pluie. C'est tellement beau à voir. Et là, ça revit pas longtemps après. Il y a de la verdure qui apparaît dans les jours, dans les semaines suivantes. Et ce sera notre rôle. C'est que nous serons une aide qui va apporter ce sentiment-là aux gens. comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Et vous savez comment c'est bon de se mettre à l'abri, à l'ombre, dans des journées comme aujourd'hui, où il fait des chaleurs extrêmes. Dès qu'on a un peu d'ombre, c'est déjà confortable. Pourtant, même si c'est très chaud quand même, étant à l'ombre, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Les gens vont voir la vérité, vont comprendre. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre ce qui ne leur est pas donné à date. Ça leur sera donné à ce moment-là. Et vous et moi, si on est là, on aura le bonheur de participer à voir les gens changer, commencer à comprendre, être enthousiasmés pour le plan de Dieu et voir la part qu'ils pourront eux aussi jouer là-dedans. De voir qu'ils pourront être pardonnés, quelles que soient les fautes qu'ils ont commises. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble. Et aujourd'hui, dans notre monde, on donne à des insensés, incroyablement insensés, le nom de noble et honorable et tout ce que vous voulez. Mais ça ne sera pas comme ça dans le monde à venir. Les grands serviteurs de Dieu seront des serviteurs humbles qui apporteront vraiment du bien. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime, ni au voleur celui d'être un bon donateur de quelque chose, alors qu'en arrière, il vole et qu'il cause toutes sortes de problèmes. Formidable. Le seul vrai évangile sera enseigné à tous, et tous vont pouvoir en profiter et y goûter. Et la loi de Dieu sera le fondement de ce monde nouveau. Il y aura de la paix, il y aura de la santé, de la sécurité, de la joie, des belles familles qui pourront vivre ensemble, qui ne seront plus divisées, qui ne seront plus séparées. Et les jeunes qui vont fréquenter vont apprendre comment faire des bonnes fréquentations, comment choisir un futur conjoint. Que ça ne vient pas comme ça, un premier coup d'œil, un coup de foudre, il est beau, elle est belle, point, bingo, on s'en va, non. Et là, on en subit les conséquences ensuite parce qu'on n'a pas baser notre décision sur les critères sur lesquels on devait baser notre décision. Est-ce que cette personne-là a le caractère nécessaire? Est-ce que le garçon en question peut être un bon père? Est-ce qu'il peut être un bon mari? De quelle sorte de famille est-ce qu'il vient? Quelle est son attitude? Même chose pour la jeune fille. Est-ce que c'est une jeune fille qui est capable d'élever des enfants? Est-ce que c'est une jeune fille qui se soucie des autres? Est-ce que c'est une jeune fille qui a des qualités, qui peut diriger une maison? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour une dame à diriger sa famille, sa maison. Alors, ce sera enseigné et le monde va changer parce qu'ils auront les bonnes clés pour savoir quoi faire. Et c'est alors que tous les êtres humains vont être appelés à comprendre, comme on a vu, à vouloir changer aussi, parce que là, ils ne veulent pas changer. Les gens ne veulent pas changer pour l'instant. Ils ne veulent pas croire non plus. Ils ne veulent même pas entendre le nom de Dieu dans bien des cas. Ce sera différent. Et ils vont devenir, à ce moment-là, des disciples de Christ. Qu'est-ce qui va s'être passé? Qu'est-ce qui va se passer? Ésaïe 25, allez juste quelques pages avant. On va voir ce qui va s'être passé pour qu'ils veulent comprendre. Ésaïe chapitre 25, on va lire les versets 6 à 9. 6 à 9. Il parle ici du merveilleux monde à venir, une fois que le Christ viendra sur la terre. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Dieu aime tout le monde. Et Dieu va prendre soin de tous ceux qui seront encore en vie à ce moment-là. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples. Sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Avez-vous, il dit, Dieu prépare un festin pour ces gens-là. Verset 7. Et sur cette montagne, qu'est-ce qui va se passer? Il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, ce qui empêchait l'ensemble de l'humanité de comprendre le plan de Dieu et de l'accepter. À ce moment-là, Dieu va lever le voile qui était sur l'ensemble, qui est encore sur l'ensemble des nations et qui était sur vous et sur moi, avant que Dieu nous appelle. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est ce qui s'en vient. Le voile sera levé. Et à ce moment-là, Dieu va continuer d'accomplir le but qu'il a depuis le début pour l'ensemble de tous les hommes, parce qu'il veut offrir à tous ceux qui ont vécu et à tous ceux qui vont vivre dans le futur la même occasion de se repentir, d'être baptisé, de recevoir son Saint-Esprit, d'avoir accès à son trône de miséricorde et d'être aidé à marcher vers l'immortalité. Parce que le but de Dieu, comme on voit dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, Dieu veut, 1 Timothée 2, versets 3 et 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire qu'ils arrivent un jour à avoir la vie éternelle, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour l'instant, mais que Dieu va leur donner en temps et lieu. Et si nous, on persiste jusque-là, qu'on finit le travail de l'Église avance et s'en va vers son terme, qu'on finit le travail, qu'on supporte l'œuvre par nos prières, par nos jeûnes, par nos dîmes, nos offrandes, par l'exemple qu'on donne autour, par les encouragements aux autres dans l'Église, si on finit le travail, voyez ce qui va arriver à ses serviteurs lorsque le Christ reviendra, le jour où ils vont revenir. Dans Matthieu 25, verset 34, il est écrit ceci. Pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, le Christ va vous dire personnellement, si vous tenez le coup jusque-là, et que vous vous améliorez, et que vous cherchez chaque jour dans sa parole à vous nourrir spirituellement. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, c'est-à-dire du gouvernement de Dieu, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il y a des choses merveilleuses qui s'en viennent. Des choses merveilleuses qui s'en viennent pour le petit troupeau de Dieu à qui il est demandé de tenir bon, de persévérer, de compter sur Dieu, parce que tout seul, on est incapable. Mais si on est suffisamment proche de Dieu, Dieu va nous donner son aide jusqu'au bout. Et c'est pour cette raison que Dieu vous a appelé. Et c'est pour cette raison que Dieu a levé le voile qui était sur votre esprit comme sur le mien. Soyons reconnaissants et fidèles à cet évangile unique.